Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Ce matin, coup de projecteur sur ces enfants et ces ados qui subissent homophobie et stéréotypes de genre. Et pour illustrer notre thème, nous recevons une mère de famille dont le fils a subi la haine, le cyberharcèlement en raison de son orientation sexuelle et de son apparence androgyne sur scène. Il s'agit de l'auteur-compositeur-interprète Bilal Hassani qui avait participé au concours de l'Eurovision en 2019. Alors comment lutter contre les préjugés de genre au sein de la famille ou à l'école? Comment combattre le harcèlement lié à ce type de préjugés? Comment favoriser l'épanouissement de ces enfants et de ces ados considérés par certains comme différents? Éléments de réponse avec nos invités. Parents, grands-parents, enseignants, ados, n'hésitez pas à nous contacter au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Quel est le menu de votre chronique Ma vie de parent vers 11h-20?
Ben aujourd'hui je vais vous parler du garçon manqué que j'étais et de la fille réussie que j'étais tout autant.
À tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
I am me, and I know I will always be. Je suis free, oui j'invente ma vie. Ne me demandez pas qui je suis.
Ouais, c'est une chanson qui parle d'acceptation de soi, d'affirmation de soi. C'est un message très positif. Tout le monde peut un peu s'identifier à ça parce qu'il y a des jours où même tout le temps on se sent un peu différent. On a toujours des fois l'impression de ne pas appartenir à notre société. Et dans cette chanson, ça parle vraiment du fait qu'à la base de qui nous sommes, on sait qui on est nous-mêmes et on n'a pas besoin d'avoir l'avis ou l'approbation, la validation de qui que ce soit en fait.
Bonjour Amina Fruoff.
Bonjour.
On vient d'entendre votre fils Bilal Hassani, auteur, compositeur, interprète, qui avait participé au concours de l'Eurovision 2019. Et vous êtes émue?
Oui, je suis très émue. Je suis à chaque fois émue d'écouter ce titre de roi qui a représenté la France à l'Eurovision, parce que c'est un titre qui veut tout dire. C'est juste accepter la différence de l'autre.
Alors après un doctorat en biologie moléculaire, vous avez été consultante dans le domaine de l'informatique et vous êtes aujourd'hui sa manager et la tête d'un label, c'est ça?
Oui, aujourd'hui je dirige le label de Bilal Hassani qu'on a appelé La House.
Et vous publiez chez Michel Lafon, Être mère, sous-titré Taha, Bilal et moi. Taha, c'est le frère aîné. Vous avez écrit ce livre pour dénoncer les préjugés qui ont assailli votre famille?
J'ai écrit ce livre pour parler aux parents, à tous les parents, et pour leur dire que tout est possible, qu'on peut protéger ses enfants et que nos enfants, dits par la société différents, ont le droit de vivre et ont le droit à un peu de tolérance.
Bonjour Sophie Cheval.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute à Paris. Vous vous intéressez aux questions liées au genre et aux discriminations liées à l'orientation sexuelle. Tiens, quelle est la différence entre sexe et genre?
Vous commencez toujours par la plus grosse question. Alors, la différence entre sexe et genre, c'est vraiment la différence entre ce qui est considéré comme, on va dire, arbitraire, c'est-à-dire des caractéristiques qui sont construites socialement. Et ça, c'est vraiment la notion de genre, c'est-à-dire qu'est-ce qui est censé appartenir au genre féminin ou au genre masculin ou à ni l'un ni l'autre ou un peu entre les deux. C'est vraiment de la construction sociale, là où le sexe est plutôt appartient plutôt à des caractéristiques biologiques qui elles aussi d'ailleurs peuvent parfois être déterminées de manière relativement arbitraire. Mais voilà en quelques mots ce qu'on pourrait dire pour discriminer les deux.
Bravo Sophie Cheval. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Vous êtes médecin et romancier, chroniqueur dans cette émission. Vous êtes très impliqué dans les combats LGBT et vous avez publié Histoire de coming out avec Sophie Nanteuil et c'est publié chez Albin Michel. Alors, Amina Fruoff, présentez-nous peut-être votre fils, Bilal Hassani, qui sera le fil conducteur de cette émission. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, pour le quotidien Libération, Bilal Hassani est un ado queer au look déjanté.
Alors moi, je dirais que Bilal Hassani veut déconstruire le genre masculin et veut vivre libre et veut naviguer dans cet arc-en-ciel qui est le genre et aller où il en a envie au moment où il en a envie. comme pas mal d'enfants.
Ça veut dire quoi, déconstruire le genre ?
Déconstruire le genre, c'est quand Bilal il a créé sa collection de vêtements, il a demandé à ce que ses vêtements soient positionnés au milieu des magasins et non côté homme ou bien côté femme, parce qu'il a constaté que pas mal de garçons qui voulaient acheter une couleur dite féminine n'osaient pas aller du côté du rayon femme. Et donc du coup, ça c'est déconstruire, c'est de dire à tout le monde, vous êtes libre de porter la couleur que vous voulez, de vous déterminer comme vous le souhaitez, et on n'a pas le droit de vous juger ou de vous critiquer parce que vous êtes dans le corps d'un garçon et que vous voulez vous habiller comme la société veut qu'une femme s'habille.
Vous comprenez que ça puisse hérisser le poil, cette idée de déconstruire le genre ?
Je comprends parfaitement, parce que moi-même, je ne vais pas tomber dans l'intolérance. Donc oui, je reste à l'écoute des critiques et j'essaye de les comprendre. La seule chose que je souhaite dire ici, c'est laisser nos enfants nous épanouir. Et il faut surtout qu'on arrête de leur voler leur intimité et qu'on arrête de leur voler leur nature profonde. Parce que c'est très très important, parce que ça déstabilise des enfants et donc nos générations futurs et nos citoyens futurs.
Sophie Cheval.
Oui, je vous écoute attentivement. Évidemment, la question sur la déconstruction, elle me semble vraiment très importante, dans le sens où ce que vous venez de dire, Amina, montre bien que la première déconstruction, peut-être la plus importante à faire, c'est celle des masculinités, puisque c'est à partir du système de détermination de la masculinité que tous les rôles de genre sont définis, en fait. Simone de Beauvoir, elle parlait du deuxième sexe. Effectivement, c'est les critères de définition de la masculinité qui déterminent également comment les femmes sont censées se comporter. Donc c'est de là qu'il faut partir pour pouvoir effectivement arriver à une plus grande fluidité sur la notion de genre.
Baptiste Beaulieu.
Oui, j'ai une petite anecdote. Un jour, je rentre dans un magasin et je vois un manteau qui me plaît, qui était en solde. Et je l'essaie devant la glace et je me trouvais vraiment canon dedans. Il m'allait très très bien. Et la vendeuse se précipite sur moi en disant oh, « Vous êtes trompé de rayon, c'est le rayon femme, c'est un manteau pour femme. » Et comme si j'allais prendre feu parce que j'avais mis ce manteau qui était en solde et qui en plus me rendait super beau. Et je trouve ça intéressant. Il faut interroger ce qui a fait peur chez cette femme, ou en tout cas qu'est-ce qui génère chez certaines personnes, dès lors qu'on sort un petit peu de la binarité de genre, une véritable angoisse. Qu'est-ce qui les trouble et qu'est-ce que ça dit aussi de notre société en termes de, comment dire, enfin, cette angoisse de la binarité, ça correspond quand même à une forme d'enfance enfance politique de la civilisation, quelque part. Il faut dépasser ça, quoi.
Pour bien comprendre, Amina Fruoff, pourquoi vous avez écrit ce livre, j'aimerais qu'on remonte à l'année 2019, année où votre fils participe donc à l'Eurovision. Alors, on a le droit d'aimer ou de ne pas aimer le travail de votre fils, mais on n'a pas le droit de subir les messages de haine qu'il a reçus à cette époque. À un moment donné, votre fils reçoit entre 1000 et 1500 messages de haine par minute sur les réseaux sociaux, des attaques homophobes en raison de son orientation sexuelle, donc de son apparence androgyne ou féminine sur scène. C'est ça qui a motivé l'écriture de ce livre.
Absolument, parce que je voulais aussi dire aux parents que cela existe, le cyberharcèlement.
Il faut imaginer que son enfant ou son petit-fils, sa petite-fille reçoivent un tel torrent de boue sur les réseaux sociaux, 1000 à 1500 messages par minute.
On peut pas l'imaginer. Enfin, vous avez utilisé le bon terme. C'est de la boue. C'est vraiment les gens qui se déchaînent. Et en fait, ils veulent tout simplement faire oublier qu'on est en train de s'attaquer à un être humain, parce que la personne, donc, de Bilal Hassani n'est plus un être humain, mais c'est juste quelque chose qui n'a pas de sentiments, ce n'est pas une personne. Donc, on peut tout dire. Et pour ces personnes-là, Bilal Hassani ne pouvait pas représenter la France. Pour eux, ce n'était pas ça le visage de la France, parce que il a participé, mais en fait, il représentait. Et c'est dans ce sens-là que ça a été très, très, très violent et que ça a été insupportable pour certaines personnes.
Sophie Cheval, de votre point de vue de psychologue clinicienne, qu'est-ce qui motive profondément un tel déferlement de haine homophobe ?
Alors, je suis ravie que vous prononciez ce mot, parce que c'était vraiment quelque chose que je souhaitais pointer, c'est que justement le terme même d'homophobie ou de transphobie, pour moi, il est assez impropre dans le sens où on qualifie en quelque sorte de peur quelque chose qui en fait est une discrimination et est une violence exercée envers autrui. Donc je propose vraiment d'utiliser davantage les termes de hétérosexisme ou de cissexisme dans le sens où...
Cis qui veut dire
qu'on s'identifie au genre auquel on a été assigné à la naissance. Merci effectivement de pointer cette définition. Il me semble que justement les termes d'homophobie et de transphobie ont tendance à faire passer pour de la peur ce qui sont en fait des mécanismes de discrimination et de domination, et mettent également l'accent sur quelque part les personnes qui subissent ces dominations et ces discriminations, alors que les termes d'hétérosexisme et de cissexisme ils permettent de montrer que la domination se fait en faveur de certains choix ou orientations ou système plutôt que d'autres.
Donc, comment vous expliquez ce déferlement de haine ?
Alors, évidemment, chaque raison est personnelle d'un individu à un autre, mais je crois que vous disiez tout à l'heure, on peut comprendre que ça hérisse le poil, et si on avait été en dehors de cette émission, j'aurais eu envie de vous demander, tiens Alice, ça m'intéresserait que vous disiez comment et pourquoi vous comprenez que ça hérisse le poil. Parce qu'en fait, s'il y a autant de violence dans ces sujets qu'on évoque aujourd'hui, c'est que ça remet en question profondément la place assignée à chacun. C'est-à-dire l'enjeu dont il est question, c'est où est ma place moi sur le continuum du genre ? Est-ce que je suis du côté de la masculinité dominante, hégémonique ? Est-ce que je me sens moi-même en quelque sorte discriminée par d'autres formes de masculinité ? Auquel cas, peut-être, ça va provoquer chez moi un esprit revanchard. Donc, on est vraiment dans des systèmes de domination croisés sur différents critères. C'est-à-dire, il y a effectivement le sexe, l'orientation sexuelle, la couleur de la peau, la classe sociale. Toutes ces choses jouent pour expliquer ces phénomènes.
Gonel Boulet.
Oui, j'ai l'impression que les gens ont naturellement besoin de s'accrocher aussi à des repères, quoi. Et que jusqu'à maintenant, peut-être, les repères de masculin, féminin n'étaient pas très interrogés. Donc c'était un peu, bon, au moins il y a ça. Et alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont fluctuantes, qui bougent autour dans la société, je pense que les gens ont besoin de se raccrocher à ça. Maintenant, moi, j'ai replongé l'autre jour dans des vieilles archives des années 60 du magazine Pop Tapis, parce que j'y travaille. Et c'était marrant de voir qu'il y avait déjà ce sujet. Il y avait des débats entre parents sur faut-il habiller mon petit garçon, ma petite fille, comme un petit garçon, petite fille. Et je trouvais les débats beaucoup plus apaisés dans les années 70 sur ce sujet que maintenant.
Baptiste Beaulieu.
Oui, je ne peux pas m'empêcher de penser à la manière dont, adolescent, on m'a appris ce qu'était comment devenir un homme. Et je crois que je ne suis pas un cas isolé et que il y a une assignation, un certain type de virilité, et que cette assignation-là, cette formation, elle passe notamment par deux choses qui sont à la fois le rejet du féminin, donc ça va être entre garçons, se moquer des filles, voilà, et aussi la survirilisation, c'est-à-dire, moi, j'ai couché avec 5 filles, moi j'en ai couché avec 6, et donc c'est toujours cette surenchère, et une troisième chose qui est échapper à absolument la présomption d'homosexualité, c'est-à-dire qu'on va aussi se moquer de l'homosexuel. Parce que c'est comme ça, en tout cas, qu'on socialise, je crois, les adolescents, hommes, les futurs garçons, en leur disant, voilà, il faut que tu montres qu'il n'y a pas de trouble chez toi, il n'y a pas de trouble dans le genre chez toi. Et ça passe par te moquer des filles, surenchérir sur tes conquêtes amoureuses, et puis te moquer de l'homosexuel.
Amina Fruoff, comment accueillez-vous la singularité de votre fils Bilal dès la petite enfance ?
Ben, je l'accueille de façon tout à fait naturelle. C'était un enfant, moi je l'appelais mon bébé pacifiste, parce que c'était un bébé très joyeux. Il souriait tout le temps, il chantait tout le temps, il dansait tout le temps. Et il voulait jouer à la Barbie. Et donc pour moi c'était tout à fait naturel, mais il fallait que je coach un petit peu, si je peux utiliser ce terme, ma famille, parce que je ne suis pas toute seule. Il y a ses grands-parents, il y a ses tantes, il y a tout un système familial derrière. Et donc, j'ai commencé tout simplement par être un petit peu très dure au départ, en leur disant que quelqu'un faisait une remarque quelconque à Bilal, ils ne me verront plus jamais. Et j'ai été un petit peu excessive pour leur montrer à quel point c'était très, très important pour moi qu'on respecte les envies et qu'on respecte la nature de Bilal.
Voilà. D'où vient cette culture de la tolérance? Vous êtes né à Casablanca, dans une société très patriarcale. Votre père a été un exemple pour élever vos enfants. Votre père, par exemple, interdit à vos frères de vous asservir aux tâches domestiques, et la moindre violence à votre égard est rudement punie par votre père. Et vous écrivez que votre père s'occupait de vous comme une seconde mère. Et ça, cela vous a valorisé et construite.
Absolument. Mon père a été vraiment pour moi un repère, et parce qu'il me dit, il nous disait, nous étions quatre filles, il nous disait, vous êtes importantes. Et il le disait devant mes frères. Mes filles sont importantes. Personne n'a le droit de toucher à mes filles, même pas mes propres enfants, même pas mes propres garçons. Donc c'était valorisé. Ma maman ne travaillait pas, donc elle était femme au foyer, et il voulait la laisser se reposer le matin. Donc maman ne se levait pas le matin pour préparer les sept enfants, nous étions sept. C'est mon père qui se levait, qui nous réveillait, qui nous coiffait, qui nous préparait le petit déjeuner. Et j'ai vécu dans tout cela, et ça m'a construite, ça m'a vraiment donné, ça m'a rassurée, et ça m'a donné cet esprit de liberté et de tolérance, tout simplement. Et d'amour, surtout.
Votre père me rappelle mon grand-père maternel. Baptiste Beaulieu, Amina Fruoff a construit un environnement bienveillant, réconfortant, afin de permettre à son fils de vivre pleinement sa vie et de la vivre librement. Mais ce n'est hélas pas toujours le cas.
Non, en tant que médecin généraliste qui s'intéresse à la santé des personnes LGBT, vous vous doutez bien que ça m'arrive souvent d'accueillir des adolescents ou des adolescentes qui sont mal dans leur peau. Il faut quand même rappeler qu'en France, les adolescents LGBT se suicident 4 à 6 fois plus que les adolescents hétérosexuels. Donc c'est un chiffre qui est effroyable et qui devrait tous et toutes nous interroger quand même. Qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants dans notre société? Comment est-ce qu'on les accompagne vers le bonheur et vers l'acceptation d'eux-mêmes? Et j'en veux pour preuve, je pense par exemple à un patient qui a grandi dans une famille extrêmement extrêmement tolérante, très ouverte, et qui a vu qui a une tante lesbienne, voilà, et qui pourtant à l'adolescence s'est fait beaucoup beaucoup de mal à lui-même avant d'arriver à dire à ses parents qu'il était homosexuel. Et donc ça interroge, parce que il a grandi dans une famille qui a priori est indemne de toute violence. Donc qu'est-ce que ça dit de notre société, c'est-à-dire de ce à quoi il a été confronté en dehors de la cellule familiale?
Alors Sophie Cheval, on le voit, la famille peut être également le creuset des préjugés et des discriminations. Au sein de certaines familles, on peut entendre des paroles blessantes à l'encontre de son enfant ou ado dont on suppose une orientation sexuelle différente. Il peut s'agir de micro-agressions répétées qui sont le fruit de stéréotypes inconscients, plus ou moins inconscients.
Je dirais implicite plus que inconscient, dans le sens où effectivement tout ce que nous avons appris sur l'assignation des rôles de genre, nous l'avons appris de manière complètement implicite. C'est-à-dire il y a parfois, comme le décrivait Baptiste Beaulieu, des phrases qui nous sont dites de manière explicite en nous assignant un rôle de genre plutôt qu'à un autre. Mais la plupart du temps, tout ça est extrêmement implicite et non déconstruit. Du coup, c'est vraiment ça la puissance en fait de la discrimination qu'on a intériorisée chacun. Chacune, c'est-à-dire, j'allais dire même les plus tolérants d'entre nous, et rien que le mot tolérant d'ailleurs est en soi un problème, même si on a beaucoup cheminé pour déconstruire ses propres stéréotypes de genre ou liés à l'orientation sexuelle, on porte en nous tout l'accumulation de centaines et milliers d'années d'apprentissage, encore une fois, hétérosexiste, cissexiste, et c'est important que on essaye d'y prêter attention et de les déconstruire dans toutes les situations, en fait, du quotidien.
Allez, on se retrouve dans quelques instants. On abordera notamment la question du harcèlement des enfants et adolescents dont on suppose qu'ils sont bi, gays, lesbiennes ou trans. En attendant, on écoute Cyndi Lauper, True Colors, à 10h25. Souvenir, hein, Gwenaëlle Boulay.
Ah oui, oui.
Show me. This world makes you crazy. You take in all you can bear. You call me up because you know I'll be there. And I'll see your true colors shining through. I'll see your true colors. And that's why I love you. So don't be afraid to let it show your true colors. True colors. True colors are shining through. I see your true.
Cyndi Lauper interprétée True Colors.
Grand bien vous fasse, Ali Rebi. Sur France Inter.
Comment lutter contre les stéréotypes de genre subis par son enfant ou son adolescent? C'est notre thème ce matin. Nous recevons Amina Fruoff, la mère du chanteur Bilal Hassani, la psychologue clinicienne Sophie Cheval et le médecin et romancier Baptiste Beaulieu. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Alors Amina Fruoff, l'histoire de votre fils Bilal pose la question de la normalité dans le sens de correspondre aux normes imposées par la société puisqu'il ne fait pas partie de la majorité, qui fait partie d'une norme. Mais certains ont pu voir votre fils comme quelqu'un d'anormal, de pas normal au sens pathologique, en raison de son orientation. Comment vous avez vécu ça depuis qu'il est tout petit ?
Depuis qu'il est tout petit, j'ai essayé d'instaurer des rituels avec mes deux garçons pour juste garder le contact, parce que ma grosse crainte c'était que j'ai plus contact avec mes enfants et de laisser la société leur dire qui ils étaient. Donc on a instauré des rituels tous les dimanches matins parce que on ne travaillait pas et c'était ce qu'on appelait nous le confessionnal du dimanche, rien à voir avec la religion, et où on avait mes enfants avaient le droit de poser toutes les questions et moi j'avais l'obligation de répondre, et j'avais aussi le droit de dire ben moi adulte et maman je ne sais pas et nous allons chercher ensemble et nous allons essayer de comprendre ensemble. Et ça m'a beaucoup aidé dans leur éducation, parce que Bilal, connu aujourd'hui Bilal Hassani, on disait qu'il n'était pas normal parce que les gens le trouvaient efféminé. Et mon aîné Taha, les gens le trouvaient pas normal parce qu'il était très gentil avec les filles à l'école, et donc ses camarades le traitaient de canard à l'époque.
Oui, canard. Rappelez ce qu'un canard.
Canard, à l'époque, dans les collèges et les lycées, on traitait les garçons de canard. C'est les garçons qui étaient trop gentils avec les filles. Et en fait, quand on est un garçon et qu'on est un bon viril, on ne doit pas être gentil avec les filles. Donc moi, ces séances de dimanche matin, ces échanges avec mes enfants de dimanche matin, me permettaient de rectifier comme je pouvais ce qu'ils avaient entendu et ce qu'ils avaient subi toute la semaine à l'école, parce qu'on peut pas les couper de la société, malheureusement.
Très joli rituel que ce confessionnal. Sophie Cheval.
Oui, ça me permet de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure aussi, Amina. C'est très important ce que vous décrivez, dans le sens de ce qu'un environnement familial peut fournir, qui permette à un enfant de grandir de manière harmonieuse en vivant des différences qui sont pointées comme anormales par la société autour de lui. C'est vraiment pas seulement de dire des choses, c'est aussi de faire des choses. C'est vraiment d'adopter des comportements qui proposent des alternatives. Ce que vous décriviez, avoir vu votre père faire pendant toute votre enfance, par exemple, concrètement, là, on est dans quelque chose d'un apprentissage très fort, puisque ça n'est pas « on me dit que les garçons et les filles, c'est pareil, ou que les hommes peuvent jouer le même rôle que les mamans, etc. » C'est « j'observe chaque matin dans ma vie quotidienne que quelqu'un le fait. » Et ça, en termes d'apprentissage, c'est beaucoup plus puissant que toute parole qui peut être proférée.
Baptiste Beaulieu.
Je trouve ça intéressant et déjà Amina, je vous aime. Je peux pas dire. Je crois que je suis pas tout seul à penser ça ce matin. Mais je crois aussi que ce qu'on ne pardonne pas à votre fils, c'est de ne pas avoir honte. Et la honte, c'est un instrument qui est utilisé par la société pour assigner les gens dans une case et qu'on l'utilise à la fois dans les films, dans l'humour, dans les livres, dans les publicités. Et votre fils, il est là, il est fier, il est talentueux et il est ce qu'il est sans avoir honte. Et ça, je crois que beaucoup de gens ne lui reprochent, lui reprochent et ne lui pardonnent pas.
Christophe nous écrit « Des personnalités comme Bilal Hassani aident beaucoup notre fils à s'assumer et surtout à combattre les préjugés de ses camarades. » Voilà, c'est un papa fier de son fils. Tiens, je vous propose d'écouter un jeune homme qui raconte son coming out en 2020 dans l'émission « Ça commence aujourd'hui » sur France 2.
J'ai décidé de le dire à ma mère. Ça a été très compliqué, il m'a fallu toute une journée pour le faire. Et au bout d'un moment, c'est elle qui en a pris marre, qui m'a dit « Bon, ça suffit, je sais que t'as quelque chose à me dire, alors dis-le. » C'est sorti, je lui ai dit, et ça a été très compliqué, mais je m'attendais pas du tout à sa réaction. Elle m'a dit que ça changeait rien, qu'elle m'aimait, qu'elle était fière de moi, que ça allait être compliqué si jamais j'étais avec un homme plus tard. Parce que l'une des choses que je lui ai dit tout de suite était « Mais même si je suis avec un homme, je vais avoir des enfants. Tu seras grand-mère, dans tous les cas, je ferai tout pour que tu le sois. »
Alors Amina Fruoff, votre fils Bilal fait son coming out très tôt, à l'âge de 14 ans, il vous révèle son homosexualité ?
Bilal me révèle son homosexualité parce que il est exclu du collège, parce qu'il avait de l'internat, il a eu des petits bisous avec un garçon et ça a un petit peu révolté tout le monde. Et donc moi je voulais savoir un petit peu ce qui s'était réellement passé. Donc il m'a dit, je lui dis alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon? Vous vous êtes embrassés? Il me dit oui maman. Est-ce que vous êtes allé plus loin que des bisous? Il me dit oui maman. Je lui dis, est-ce que vous vous êtes protégée? Il me dit, oui, maman. Je lui dis, bah, c'est bon, il n'y a pas de discussion. Chacun va faire ce qu'il veut. Et c'est arrivé comme ça. Parce que j'ai toujours dit à Bilal, Taha, ton frère, quand il se présente en société, il ne dit pas, je suis Taha Hassani et je suis hétérosexuel. Donc tu n'as pas, toi, à te présenter comme Bilal Hassani et je suis homosexuel. Cela ne regarde personne. Voilà, tout simplement.
Sophie Cheval.
Oui, je dodeline fortement dans le sens où effectivement, c'est vraiment, et ça rejoint ce que disait Baptiste Beaulieu sur la honte à l'instant, c'est que on ne demande jamais aux personnes qui sont considérées comme étant dans la norme de genre ou d'orientation sexuelle de justifier ni de leur identité de genre, ni de leur orientation sexuelle, ni ce sont toujours les marges qui doivent justifier de où est leur identité, qui elles sont et comment elles se définissent.
Baptiste Beaulieu.
Alors, effectivement, je pense que l'orientation sexuelle, c'est quelque chose d'intime, mais ça n'est pas pour autant quelque chose qui ne serait pas politique. C'est très politique, l'intimité. Et je veux vous donner un exemple rapide. On utilise souvent l'argument de « j'ai pas choisi » ou « c'est pas un choix » ou « je suis né comme ça ». Et cet argument, pour moi, il est irrecevable dans le sens où on s'en fiche de savoir si on est né comme ça ou pas né comme ça, si c'est biologique ou si c'est une construction, qu'on devient homosexuel ou si on est homosexuel. Parce que la vraie question, c'est... On n'empêche pas deux adultes consentants de faire ce qu'ils veulent dans leur intimité. Et donc, la question fondamentale, c'est celle de la liberté individuelle. Et donc, pour moi, cette question de l'intimité, elle est fondamentalement politique. Et donc, effectivement, on se présente pas en disant « je m'appelle Bilal Hassani, je suis homosexuel », mais c'est hyper important de le dire aussi pour toutes les personnes qui se posent des questions ou qui peuvent penser que c'est quelque chose de honteux dont ils devraient taire.
Amina Fruoff, comment son père musulman pratiquant a-t-il reçu cette nouvelle du coming out ?
Le papa de Bilal Etaha a reçu cette question tout simplement, c'est-à-dire en restant lui-même. Donc il a dit à son fils que cela était un péché dans la religion musulmane, parce qu'il est musulman. Et il a aussi dit à son fils qu'il l'aimait et que dans tous les cas, il va continuer à l'aimer. Et à l'accepter comme il est.
Et quand votre fils est cyber-harcelé de façon massive, il bénéficie du soutien total et inconditionnel de son père.
Oui, parce que moi, je n'arrivais plus, Bilal ne m'écoutait plus, je n'arrivais plus au début à comprendre ce qui nous arrivait. Et du coup, j'ai appelé le père et je lui ai dit, il faut vraiment que tu prennes le relais, alors que je ne l'avais jamais fait par le passé. Et là, il a pris le relais et c'est le papa qui a rassuré Bilal, qui lui a parlé tous les jours, pour qu'on passe déjà cette tempête de haine de la première semaine, parce qu'on n'a pas compris ce qui nous arrive, ce qui nous arrivait.
Baptiste Beaulieu, quand on est adolescent, le moment du coming out reste un moment fondamental. Hein.
Bien sûr, parce que évidemment toutes les cellules familiales sont pas comme celle qu'Amina a construite avec son fils. Et quand on est adolescent, on est fragile, on est plein de plaies, de bosses, et on veut, et c'est vrai aussi que nos parents soient fiers de nous, on veut s'intégrer à un groupe, et donc tous ces paramètres-là font que, quand on s'écarte un petit peu de la norme, qu'on est, et c'est le cas typiquement de Bilal, hors du commun, on peut se sentir parfois isolé à un âge où l'isolement est déjà naturel. Hein. Donc je pense qu'il faut être particulièrement vigilant, et c'est le rôle de nous les soignants, quand on accueille des familles ou quand on sent qu'il y a des petits dysfonctionnements, de faire sentir à l'adolescent ou à l'adolescente que le cabinet médical, c'est un sanctuaire vers lequel il peut se réfugier pour discuter avec son médecin.
Alors Sophie Cheval, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. Quand on est parent, on peut ressentir un bouleversement au moment de l'annonce de ce coming out. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là ?
Mais la réponse permet de rebondir sur ce que disait Baptiste Beaulieu à l'instant, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'intime autant que dans le politique, si ce n'est plus dans le politique encore que dans l'intime. Justement, ce qui me semble important dans ces moments-là, c'est que les parents peuvent être traversés de toutes sortes d'émotions, représentations, angoisses, doutes, souffrances de toutes sortes, et ce qui se passe pour eux à ce moment-là, c'est ce qui se passe dans le reste de la société, dans le reste de la vie des enfants dont on parle, c'est que ça n'est pas eux dont il est question. C'est-à-dire que ce que ça leur fait, ce que ça vous fait aux uns et aux autres, si moi je me présente comme la personne que je suis, en fait ça n'est pas mon problème, c'est le vôtre. Mmh. Et ça peut paraître extrêmement abrupt ce que je dis là, mais je suis tout à fait ouverte et ravie d'accompagner les parents qui vivent douloureusement ce type de révélation. Simplement, dans le moment où les enfants en parlent, c'est effectivement ce que vous nous montriez en le décrivant tout à l'heure, Amina, c'est la place doit être faite à la personne qui exprime comment elle vit sa différence, comment elle a peur d'en parler, et puis aussi pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, j'ai souvent, de là où je me trouve, l'impression que quand on a une identité de genre ou d'orientation sexuelle qui sort de la norme, la vie est un coming out en fait. Hein. C'est pas seulement le moment du coming out à ses parents ou à ses... La vie devient un coming out récurrent. Mmh. Et c'est ça l'expérience d'être hors de la norme en fait.
Amina Fruhoff, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents désemparés par le coming out de leur enfant ?
C'est juste penser à vos enfants, parce que il y a un chiffre qui a été annoncé au départ sur le suicide des ados homosexuels. Il vaut mieux avoir un enfant, c'est un peu violent ce que je vais dire, mais il vaut mieux avoir un enfant vivant et homosexuel que suicidé, que mort. Mmh. C'est très important parce que c'est la vérité. C'est très troublant pour un enfant. Un enfant peut se suicider s'il se sent isolé, s'il sent qu'il n'est pas accepté par sa famille. Donc, tout ce qu'on demande à une famille, c'est de donner de l'amour à un enfant. Il faut que ce cercle reste dans l'amour, parce que la société va lui envoyer de la haine, la société va lui envoyer de la discrimination, la société va lui dire que c'est un monstre. Donc s'il vous plaît, vous en tant que parent, essayez au moins de sauvegarder ce cercle familial et donner de l'amour et de l'acceptation à vos enfants, même si cela vous trouble. Il y a des psychothérapeutes, il y a des psychologues, il y a plein de structures associatives. Allez parler à ces gens-là, mais épargnez à votre enfant votre trouble.
Et Baptiste Beaulieu, en tant que parent, il est important de ne pas provoquer le coming out de son enfant, même si on se doute de quelque chose.
Non, par contre, on peut poser des petits jalons pour qu'il puisse faire son coming out en étant rassuré. C'est-à-dire que on peut laisser traîner des livres, laisser traîner des films qui montrent une image de l'homosexualité, qui montrent que on n'est pas gêné par ce sujet-là, et que quand l'enfant sera prêt ou prête à l'aborder, il pourra le faire en toute sécurité. Mais ça passe vraiment par avoir une cellule familiale familiale solide, dans laquelle il n'y a pas de tabou, dans laquelle on ne se moque pas de ce genre de sujet, parce que la moquerie, c'est aussi une des premières manières de pousser l'enfant au silence, hein, quand il entend des blagues, quand il entend des réactions face à certaines informations, au JT, etc. Ça se construit très lentement, hein, l'isolement. Mmh.
Alors Amina Fruoff, juste avant d'écouter la chronique de Gonel Boulet, j'aimerais que vous parliez d'une chose assez formidable que vous avez mis en place dans votre famille. C'est cette table des savoirs qui permet de déconstruire tous les préjugés. Une table des savoirs mise en place à la maison, dans le salon, table basse, où il y a de tout. Il y a des revues, ça va de la revue 21 en passant par Gala, Automoto, Le Monde, Le Figaro, des tas de livres différents, ça va du zizi sexuel. Ah bon, c'est, racontez-nous comment vous avez eu l'idée de mettre en place cette table des savoirs.
Eh ben, je ne sais pas, mais je savais, moi j'étais convaincue d'une chose, c'est que les livres étaient nos sauveurs, les revues, la lecture. Et je me disais peut-être que les choses que je n'arriverais pas ou que je ne saurais pas exprimer à mes enfants, ben je vais laisser à un écrivain ou bien un journaliste le leur dire, et aussi pour leur montrer que on n'a pas enfin, tous la même idée. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais commencer. Puis, j'ai commencé par un livre. J'ai mis la première fois sur la table le livre du prophète de Khalil Gibran, parce que je trouvais qu'il parlait beaucoup, très bien, de la famille, de l'amour. Après, c'était le zizi sexuel de Titeuf, parce que je savais pas comment répondre à certaines questions sur la sexualité. Et c'est devenu,
c'était joli parce que on lit des articles à voix haute, on échange, on pose des questions. C'est un moment
c'était
assez
un moment
joyeux.
Qu'on utilisait beaucoup, toute la semaine, bien évidemment, les enfants regardaient et donc moi je les laissais faire. Et le dimanche matin, j'avais une question par exemple difficile, et on allait d'abord, avant d'aller sur internet, piocher sur la table des savoirs, voir si on n'avait pas un article sur, je ne sais pas, parce qu'il y avait aussi beaucoup de questions sur la drogue, l'impact de la drogue sur le cerveau. C'était très très scientifique, donc moi je ne pouvais pas commencer à faire une conférence. Donc
même
on
si
disait,
vous êtes scientifique de formation.
J'ai un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire, oui je saurais, mais je ne suis pas neuro neurologue. Donc c'était vraiment des souvenirs et des moments de joie. Et mon compagnon de l'époque était très féru de moto, de voiture, donc il avait aussi sa petite place.
Il avait voix au chapitre. Non, allez, on se retrouve dans quelques instants, Amina Fruoff, Sophie Cheval et Baptiste Beaulieu. Il est l'heure à 11h moins le quart de retrouver la chronique Ma vie de parent de Gwenaëlle Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut. Merde.
Alors ce matin, Gonel Boulet, vous avez eu envie de nous parler de l'enfant rêvé et de l'enfant réel.
Et oui, quand on se projette dans le rôle de parent, on s'imagine davantage en train de faire des câlins que de crier « merde !» comme un putois rapport à ce générique. Et pourtant, force est de constater qu'être parent, c'est devoir un jour ou l'autre accepter qu'on n'est pas le parent qu'on s'était imaginé. Et il en est de même pour nos enfants. Et oui, quoi qu'on pense ou qu'on en dise, nous avons tous rêvé nos enfants avant de les avoir. Nous avons inconsciemment projeté des choses sur eux, nos propres joies, comme nos envies de réparation. Et jour après jour, en grandissant, nos progénitures se détachent de cet enfant rêvé pour devenir notre enfant réel, avec ses particularités, ses intelligences et ses fragilités.
Et il y a comme une forme de deuil à faire.
Oui, c'est ça, être parent, c'est faire le double deuil du parent qu'on aurait rêvé être et de l'enfant qu'on aurait voulu rêver d'avoir, et organiser un peu cette rencontre entre deux inconnus. Et bien souvent, fort heureusement, le réel dépasse le rêve pour nous offrir un amour inimaginé.
Alors être parent, c'est savoir s'adapter.
Oui, on fixe des cadres, on transmet des choses, mais au fond, on est obligé de se laisser surprendre par ces êtres autonomes que sont nos enfants. Et parfois, les surprises sont si grandes qu'elles nous demandent de réaliser un véritable travail sur nous-mêmes. Alors quand j'ai su le thème de l'émission d'aujourd'hui sur les questions de genre, je me suis souvenue de moi, enfant. Et je me suis demandé quelle étiquette on m'aurait mise si j'avais grandi aujourd'hui. Quel chemin serait le mien si j'avais 12 ans aujourd'hui? En effet, jusqu'à mes 11 ou 12 ans, je crois pouvoir dire que j'ai grandi dans la peau d'un garçon. À l'époque, on disait que j'étais un garçon manqué. Alors bon, cette appellation est assez terrible quand on y pense, mais moi, je l'aimais bien parce que dans garçon manqué, j'entendais surtout garçon. Et ça me plaisait plus que tout. Ouais, je me souviens qu'enfant, je rêvais d'avoir un zizi pour faire pipi debout. Je me sentais proche des garçons pour jouer au foot à la récré. Et plus tard, quand j'ai commencé à écrire des histoires pour les enfants, je me suis même rendu compte qu'il m'était impossible de me projeter dans un personnage de petite fille, alors que je serais bien incapable d'écrire au nom d'un personnage adulte masculin aujourd'hui. Je ne sais pas si je est un autre, mais ce qui est sûr, c'est que je est multiple.
Et qu'ont dit vos parents à l'époque ?
Ben en fait, je ne sais pas ce que mes parents se sont dit, s'ils en ont parlé, s'ils ont eu une stratégie consciente vis-à-vis de moi sur ce sujet. Ce que je sais, c'est qu'ils m'ont laissé libre d'être moi-même, d'être non pas un garçon manqué, mais une fille réussie dans mon genre, celui qui me convenait à ce moment de ma vie et qui, je l'ai observé par la suite, n'était en fait pas figé. Ma mère se souvient qu'à partir de mes 3 ou 4 ans, il était devenu quasiment impossible de mettre des jupes ou des robes. Et je crois qu'à partir de là, j'ai pu m'habiller comme je voulais, avec des pantalons à poche pour mettre toutes mes billes, sans que cela n'ait jamais été un sujet à l'école. J'ai fait ma communion en costume de garçon, sans que cela n'ait non plus été un sujet à l'église. J'ai pu commander mes Big Jim agents secrets à Noël, m'acheter un vélo de course de garçon après un an de scrupuleuses économies. Et quand, ayant enfin eu le droit de me couper les cheveux tout court comme j'en rêvais en fin de primaire, la boulangère m'a dit « Au revoir, jeune homme ». Autant dire que je n'ai rien dit. Je ne l'ai pas reprise et je me souviens encore de l'extrême bonheur que cette méprise m'avait procuré.
Alors Gwenaëlle Boulet, qu'est-ce qui explique que vous avez finalement conservé votre genre de naissance ?
Eh bien franchement, j'en sais rien. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant interroge davantage son genre qu'un autre ? Que cette interrogation dure ou ne dure pas ? Qu'elle est figée ou fluctuante ? Qu'elle nécessite une transformation réelle et durable ou pas ? Je crois même que les spécialistes qui travaillent actuellement sur la question ne le savent pas. Ce qui est sûr, c'est que cela ne se choisit pas vraiment, que c'est pas une coquetterie et que ça s'impose à chacun dans la légèreté ou la douleur. Alors que faire en tant que parent ? Eh bien, qu'il s'agisse du genre ou de bien d'autres choses, je pense qu'il faut travailler au plus profond de nous pour accepter cet écart qui se creuse constamment entre l'enfant projeté et l'enfant réel, pour tenter de toujours préférer le réel au fantasmé. Car les parents qui ont eu à traverser un véritable deuil le savent mieux que personne. Ce qui fait toute la beauté d'un enfant, c'est avant tout qu'il soit vivant. Et aussi surprenant, bousculant que soient nos enfants, il nous incombe de les accueillir tels qu'ils sont, avec toutes les facettes de leur personnalité. Car après tout, nous avons notre vie à vivre et la leur leur appartient à eux et à eux seuls.
La chronique « Ma vie de parent » de Gwenaëlle Boulet. Réaction Sophie Cheval, vous avez pris des notes pendant la chronique.
Je prends frénétiquement des notes dans toutes les situations de la vie. Oui, la chose sur laquelle j'avais le plus envie de rebondir, c'est, en fait, il y en a deux. C'est au jeu et multiple, j'ai envie d'ajouter que tout cela est très contextuel. C'est-à-dire que là, on a tendance à adopter une perspective identitaire au sens où il s'agit de la définition d'une personne. Mais en fait, la manière dont on est perçu et dont on est assigné à un genre, à une orientation sexuelle ou autre, elle est toujours contextuelle. Donc peut-être un message qui est important à faire passer, c'est que, et c'est peut-être ce qui est arrivé à Bilal et ce qui, j'espère, arrivera à d'autres personnes qui traversent ces types d'expériences, c'est que l'idée peut être de trouver les contextes dans lesquels on va pouvoir être soi-même le plus librement possible. C'est-à-dire on a tendance à penser qu'il faut se remettre soi en question, qu'il faut réfléchir, peut-être s'adapter, trouver les bons mots, etc. Mais en fait, c'est souvent le contexte qui ne va pas. Donc changer de contexte et trouver les contextes dans lesquels on peut être librement soi, ça existe, c'est possible et c'est même de plus en plus possible. Ça, c'était seulement le premier point. Je monopolise le micro. Le deuxième point, c'était que la question de est-ce que ça se choisit, ça ne se choisit pas, c'est une question qui est tellement épineuse, qui est porteuse de tellement de représentations toxiques, tellement de vision politique complètement rance, que je trouve qu'il est intéressant de pointer avec Virginie Despentes, par exemple, à qui on avait posé la question un jour, de dire « Mais comment se fait-il que vous soyez devenue lesbienne si tard, finalement ?» Et elle dit « Mais en fait, je ne vois pas d'autre réponse que celle du conditionnement social permanent, qui en fait est une invitation constante à l'hétérosexualité, à l'identité de genre fixe et qui soit conforme à celle qui nous a été assignée à la naissance. » C'est-à-dire que massivement, on est quand même dans un environnement qui nous invite à suivre la norme, en fait, hein, de manière implicite et forte. Et là, je lâche le micro.
Pour Amina Fruoff, peut-être une réaction à cette chronique ?
Ben moi, j'ai beaucoup aimé, surtout qu'on nous avait dit que quand on a des enfants, le mieux, c'est de les avoir vivants. Mmh. Et je pense que là, ça résume tout. Ça dit tout.
La chronique Ma vie de parent à réécouter ou à podcaster sur l'appli France Inter. Et tiens, je vous conseille un livre d'Aïda Ndiaye pour les ados. Ça s'appelle Qu'est-ce qui fait mon genre ? Et c'est publié chez Gallimard. Et dans un instant, on s'intéresse au cyberharcèlement subi par les ados LGBT ou supposés LGBT. Ce sera juste après Baptiste W. Hamon qui interprète Je m'abandonne à toi à 10h51.
Je voudrais te revoir pour te dire tout bas des choses maladroites que l'on ne dit qu'une fois, mais te les dire à toi et t'ouvrir grand mon âme pour t'offrir enfin tout, tout ce qu'il faudra. Les rires, la flamme, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Oh. Et nous connaissons depuis 100 ans déjà. Oui, nous dirons tout, nous ne faiblirons pas. Je me plierai à tes ordres, je serai fou de toi. Au doute, à la discorde, je dirais, souviens-toi. Les rires, la flamme, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Oh. Et nous vivrons heureux, contraint d'aucune loi, et j'ai l'ennui de toi, oui j'ai l'ennui de ça.
Et on vient d'écouter Baptiste W. Hamon, je m'abandonne à toi.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Comment lutter contre les stéréotypes de genre subis par son enfant? C'est notre thème ce matin. Nous recevons Amina Fruoff, la mère du chanteur Bilal Hassani, la psychologue clinicienne Sophie Cheval et le médecin romancier chroniqueur dans Grand Main Vous Fasse, Baptiste Beaulieu. Et nous accueillons Cécile. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Quel est votre témoignage, Cécile?
Alors, je suis maman d'une petite fille de 5 ans qui est donc en maternelle et nous avons déjà dû faire face à des choses que vos invités ont décrites, à savoir les petites filles de sa classe s'entendent dire par certains garçons « tu dois te coiffer de cette manière » ou « tu dois t'habiller de cette manière, sinon tu n'es pas une fille ». Moi, j'ai jamais élevé mon enfant dans des stéréotypes de genre. Lorsqu'elle voulait une paire de chaussures ou un pantalon qui venait d'un rayon X ou Y, je ne faisais pas la différence fille ou garçon en termes de couleur, en termes de jeu. Et elle a été vraiment assez choquée lorsque ça lui est arrivé. Et on se retrouve effectivement face à ces soucis que vous avez décrits, les problèmes de construction culturelle. Et c'est assez difficile de faire face à ça à un âge aussi jeune.
Sophie Cheval, psychologue clinicienne.
Oui, tu dois te coiffer comme ça, sinon tu n'es pas une fille. Ça donne envie de dire, qui te permet de dire que je me définis comme fille? Je suis la seule et unique personne à pouvoir décider si je me définis comme telle. Et deux, tu n'as pas le monopole de définir comment une fille doit être. Et je suis un peu interpellée par l'âge de cette petite fille, en fait. C'est l'âge auquel ça lui arrive.
Amina Fruoff.
J'ai juste envie de dire qu'un gamin de 5 ans qui tient de tels propos, d'où ça lui vient? Et on revient toujours à la structure familiale.
Gonel Boulet.
Je pense qu'il faut y aller tranquillement avec les petits aussi, c'est-à-dire que le petit, à cet âge-là, est binaire et a une construction binaire. Donc c'est sale ou c'est propre, c'est gentil, c'est méchant, c'est fille ou c'est garçon. Après, à nous de les accompagner justement dans qu'est-ce qui met derrière la notion de fille, qu'est-ce qui met derrière la notion de garçon. Je pense pas que forcément ça donne des enfants plus tard intolérants. C'est à nous adultes de les accompagner et de savoir qu'à cet âge de la construction, ils ont ces besoins comme ça de repères noir-blanc. Et voilà, à nous d'accompagner ça en tant que parents et puis éducateurs à l'école.
Merci beaucoup Cécile de nous avoir appelé. Amina Fruoff, j'aimerais qu'on termine avec le cyberharcèlement qu'avait subi votre fils en 2019 après le le concours ou au moment du concours de l'Eurovision. Quelles armes conseillez-vous aux parents qui nous écoutent si leur enfant, gay, lesbienne, bi, peu importe, subit du cyberharcèlement, du harcèlement en ligne? Quel est votre conseil?
Ben moi, le conseil, c'est vraiment d'essayer d'éloigner votre enfant tant que vous pouvez de ces réseaux sociaux. Ce n'est pas facile parce que quand j'ai essayé de le faire avec Bilal, Bilal m'a dit « Maman, ça m'angoisse encore plus de ne pas avoir mon téléphone et de savoir et d'imaginer toutes les atrocités qu'on est en train d'écrire sur moi. » Donc, je l'ai compris, on a discuté et en fait, la solution, c'était on lui a retiré ses réseaux sociaux, mais on a mis quelqu'un de confiance sur ses réseaux sociaux qui surveillait et qui lui disait c'est rouge, c'est orange, c'est vert. Voilà.
Un mot de conclusion, Sophie Cheval, au terme de cette émission, j'ai pris
Ali,
plein,
vraiment, mais
plein,
vous
plein
ne m'épargnez rien. Quoi,
bah oui. Mais vous prenez plein de notes, donc ça m'incite à vous demander.
Je réfléchis
le mot de
comme
conclusion.
Ça, mais ça va trop vite, ça va trop vite. Un mot de conclusion, c'est peut-être un mot qui n'a pas été prononcé, mais qui est en filigrane là depuis le début. C'est vraiment cette question de l'autodétermination. C'est-à-dire que ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est vraiment la capacité à se déterminer soi-même. Et une autre chose importante, c'est qu'effectivement cette nécessité, ce besoin profond d'autodétermination qu'on a, bah effectivement, il entre en friction avec le fait qu'on a aussi besoin d'appartenir, mais que là encore, on peut choisir les contextes dans lesquels on peut être librement soi.
Amina Fruoff, un mot de conclusion.
Aimez-vous les uns les autres, ça fait un petit peu très dimanche, oui. Mais sincèrement, donnez de l'amour à vos enfants, c'est tout ce qu'on vous demande en tant que parent.
Merci beaucoup Amina Fruoff, merci pour votre témoignage. Je recommande votre livre Être mère, Taha, Bilal et moi, c'est publié chez Michel Lafon. Merci beaucoup Sophie Cheval d'être
avec
venue
plaisir.
Dans Grand Main vous fasse. Merci Baptiste Beaulieu, fini les vacances, hein, vous revenez lundi faire votre chronique, hein.
Je serai là lundi.
Allez, demain vous retrouverez Thomas Chevineau pour célébrer le plaisir de la lecture. Pour ma part, je vous retrouve vendredi.